Je vais dîner ce soir chez ce cher Serge.
Je vais dîner ce soir chez ce cher Serge.
Comment dire ?
Une émission proposée par le département d'études théâtrales de l'université Paul-Valéry Montpellier 3.
Produite par FM+.
Réalisée avec la collaboration de la revue Spintica.
En partenariat avec La Baignoire.
Lieu dédié aux écritures contemporaines.
Et les éditions Espace 34.
Faut que tu t'éclaircisses la voix. Que tu essayes de le dire. Et voilà.
Je vais dîner ce soir chez Sarcel. Il y a du progrès.
Comment dire ? Bonjour Pénélope de Chauffour, merci de nous recevoir. Est-ce que vous pourriez vous présenter et puis ensuite nous présenter le cycle de rencontres qui s'est effectué avec Akimba et Kofi Kwaoulé ?
Bonjour à toutes et à tous et merci à vous. Alors oui, moi je suis Pénélope de Chauffour, je suis maître de conférences en études théâtrales à l'université Paul-Valéry Montpellier 3 et je suis spécialiste des dramaturgies afro-contemporaines et afro-descendantes. Donc c'est pour ça que à mon arrivée ici, j'ai cherché à développer des partenariats pour pouvoir faire connaître davantage les écritures dramatiques, notamment d'auteurs qui sont originaires d'Afrique francophone subsaharienne, comme c'est le cas pour Kofi Kwaoulé et Akimba. Et donc je me suis tournée dans un premier temps vers La Baignoire, donc c'est un lieu qui est dédié à l'écriture dramatique en travail, qui accueille des auteurs qui ont des textes en cours, qui peuvent les lire, faire des ateliers aussi avec les publics en fait du lieu. Et donc voilà, j'ai tout de suite noué un dialogue très fécond avec Béla Tsoupone, le directeur de La Baignoire. Donc quand la Maison des Francophonies Montpellier Via Domitia s'est créé à Montpellier l'année dernière. Là, c'est un partenariat en fait entre l'université Paul-Valéry, la métropole et puis d'autres institutions de la région qui s'intéressent à la langue française. J'ai pensé que à l'occasion des rendez-vous des francophonies qui sont organisés chaque année et qui regroupent plusieurs manifestations différentes, des colloques, des temps de lecture, des dédicaces aussi d'ouvrages en librairie, voilà ce genre de choses, ce serait intéressant d'avoir un focus autour des dramaturgies d'Afrique francophone et de pouvoir inviter des auteurs à Montpellier. C'est ce que j'ai voulu faire cette année avec Akimba et Kofi Kwaoulé.
On entend beaucoup le mot afropéanisme. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, son éclosion, le mouvement et qu'est-ce que ça signifie ?
Oui, alors je peux parler de l'afropéanisme. C'est intéressant que vous me posiez cette question parce qu'elle n'est pas forcément au centre, en tout cas, du travail d'un auteur comme Akimba. Mais c'est vrai que dans le milieu du théâtre, on oublie parfois qu'un des premiers auteurs à se revendiquer, alors non pas afropéen, mais afro-européen, c'est effectivement Kofi Kwaoulé, qui explique qu'il est né en Côte d'Ivoire, mais qu'au bout de plusieurs décennies passées en France, il se sent pleinement afro-européen et pas exclusivement africain, et qu'il écrit aussi à partir de cette identité hybride qui le compose. Et l'afropéanisme, c'est vrai que c'est une notion qui est intéressante, qui a été popularisée par Leonora Amiano au tournant, on va dire, des années 2014-2015, au moment où elle obtient le prix Femina. On entend beaucoup parler de cette autrice camerounaise, qui est surtout d'abord une autrice en fait de romans, qui aujourd'hui écrit aussi un peu pour le théâtre, mais c'est vrai qu'elle est plus connue en fait pour ses romans et ses nouvelles. Et en fait, elle obtient le prix Femina, ce qui fait qu'elle va avoir un certain nombre de, enfin, elle va avoir une visibilité médiatique en fait. Et à cette occasion, elle va expliquer qu'elle travaille dans ses romans autour de figures afropéennes, donc des femmes noires afrodescendantes qui sont nées en France, mais souvent donc de familles d'origine africaine notamment, et que elle, c'est un travail qui lui tient à cœur parce qu'elle trouve que ces identités-là, qui sont très présentes en France, ne sont absolument pas représentées dans les médias, mais aussi dans les récits, dans les narrations, sur les plateaux de théâtre et même sur les supports publicitaires, etc. Et c'est en fait une artiste qui va aussi venir à Montpellier cette année, qui s'appelle Eva Doumbia, qui est une artiste de théâtre, metteuse en scène, autrice, performeuse, qui va populariser cette notion qu'est l'afropéanisme sur les plateaux de théâtre en montant un spectacle, pareil au tournant des années 2010, qui s'intitule Afropéenne. Et voilà, je trouve que c'est aussi un concept, comme dit Léonora Miano, qui est important aujourd'hui parce qu'il est lié à l'émergence du mouvement afroféministe aussi en France et de toutes les luttes pour la décolonisation des arts qui sont elles-mêmes très importantes là aussi à peu près depuis les années 2015.
On a une question sur l'articulation entre justement la notion d'afropéanisme et le lien avec les écritures et scènes décoloniales.
Alors le lien, en fait, il peut se faire de plusieurs manières. Je vais te dire peut-être de façon factuelle avant de répondre plus sur le plan esthétique. Les problématiques décoloniales au théâtre, elles vont émerger à peu près en même temps que le concept d'afropéanisme. Parce qu'il s'agit non pas de revendiquer, comme ça a été le cas un petit peu avant, sans que ça ait forcément abouti d'ailleurs, mais il ne s'agit pas forcément de revendiquer la place des écritures ou des productions afro-contemporaine sur les scènes occidentales ou européennes, mais là c'est vraiment en fait un cri du cœur des personnes afro-descendantes qui vivent en France, donc qui sont français et qui sont noirs et qui ne se sentent pas du tout représentées ni écoutées. Et donc au tournant des années là aussi 2015, je ne sais pas si vous vous souvenez, en France on avait pu voir l'installation performance qui s'appelait Exhibit B, de Brett Bailey, un artiste originaire d'Afrique du Sud. Et cette installation performance traitait de ce qu'on appelle aujourd'hui les zoos humains, donc les exhibitions coloniales. Et en fait, autour de la programmation de cette installation performance à Paris, notamment au TGP, plusieurs manifestations assez vives ont eu lieu pour exprimer, voilà, enfin pendant lesquelles les artistes racisés ont exprimé leur mécontentement et même le fait d'être choqués que ce type de spectacle soit programmé sur les scènes du théâtre public français. Alors, la colère, elle provient de différents facteurs, et là, je ne pourrais pas tous les développer, mais ce qui est important, c'est de noter que, par exemple, une année auparavant, une artiste qui, heureusement, aujourd'hui, a un peu plus de visibilité, hein, qui s'appelle Bintou Dembélé, qui va d'ailleurs faire l'ouverture du Festival d'Avignon cette année, avait fait un très très beau spectacle qui s'appelait ZH, qui parlait en fait de cette même question et qui n'avait pas du tout trouvé de date, qui avait très peu tourné et pas du tout sur les scènes du théâtre public. Donc voilà, il y avait une vraie colère de la part des artistes qui revendiquaient la possibilité qu'on s'intéresse au travail qui était fait ici en France, plutôt que d'aller chercher, de faire le détour par des productions sud-africaines pour parler de questions qui étaient aussi au cœur du travail d'artistes afro-descendants en France. Et donc, à cela, c'est un petit peu adossé la colère aussi de voir très peu en fait d'artistes dits racisés sur les plateaux de théâtre. Et c'est comme ça, en fait, que à la fois le mouvement afropéen, des artistes donc qui se revendiquent comme étant afropéens et afropéennes, hein, puisque là, il est beaucoup question justement aussi du geste de femmes pour reprendre la parole et réaffirmer aussi la qualité esthétique de leur travail, de leur recherche au plateau. Donc voilà, Eva Doumbia, Bintou Dembélé, Léonora Miano, et puis voilà, Sandra Saint-Rose Francine, tout un petit peu les personnes que vous retrouvez dans le recueil « Décolonisons les arts » qui est paru à cette période-là chez L'Arche, et qui vont affirmer en tant qu'afropéenne la nécessité pour avancer et faire de la place aux voix afropéennes de décoloniser les imaginaires.
Extrait de Convulsion d'Akimba. Franchement, ce qu'il te fait subir, t'as vraiment un sacré courage pour supporter. Des fois, je me demande vraiment si c'est mon frère qui se comporte ainsi. C'est pire qu'une andouille. Il se comporte pire qu'une andouille. Et pendant ce temps, toi, tu donnes tout. Et tu donnes ce que tu donnes. Voilà, lui en retour ce qu'il te donne. Comment il te remercie? Non mais arrête de pleurer. Il va tremper sa queue ailleurs et quand les autres viennent lui régler ses comptes ici, tu te mets à pleurer? Eh bien pleure. Ça te fait tant pleurer, pleure. Même il pisse dans ta bouche, tu bois et tu pleures. Même il crache sur ta figure, tu avales et tu pleures. Non mais qu'est-ce qu'il croit? Que t'es un torchon peut-être? Qu'il peut se torcher le cul avec ta bonne âme? Non mais franchement, ça suffit. Faut lui montrer que non, t'es pas bonne à qu'à bouffer sa merde. Léger silence. À ses yeux, t'es pas plus qu'une mangue pourrie à foutre à la poubelle. Une telle beauté. Quelle beauté, non? Il n'a qu'à faire ce qu'il veut, mener la vie qu'il veut, mais toi aussi te laisse plus faire. Croire qu'il a osé même coucher avec la femme du voisin. Quelle honte. Et le pire, c'est qu'il va continuer. Il ira toujours traîner sa queue ailleurs. Rien ne l'arrêtera. Il est comme ça. Que veux-tu? La fidélité, c'est pas sa tasse de café. Et qu'attends-tu de lui? Que peux-tu continuer à encore attendre d'un tel homme?
Akimba est un auteur de théâtre né en Guinée. Ses textes sont publiés chez Lanceman, à Théâtre Ouvert ou encore aux éditions Passage ou Quartet. Il a notamment reçu le prix RFI Théâtre en 2016 pour Convulsion et s'est vu décerner d'autres récompenses pour son travail. Prix des Journées Lyon des auteurs de théâtre, prix d'écriture théâtrale de la ville de Guérande, prix des Inédits d'Afrique et d'Outre-mer, prix du public au festival Texte Avril. Il co-dirige par ailleurs la compagnie Paupières Mobiles, France, et assure la direction artistique du Festival Univers des Mots en Guinée.
Pénélope, pouvez-vous nous conter votre première rencontre avec Akimba, avec l'homme et avec l'œuvre?
Alors Hakim, c'est vrai que j'aime beaucoup raconter ma première rencontre avec l'homme parce que j'ai d'abord rencontré l'homme et après j'ai rencontré l'œuvre. Enfin tout ça s'est fait un peu en même temps, mais c'était vraiment une rencontre humaine. Bon, et puis il faut dire qu'Hakim et moi on est de la même génération, donc on s'est rencontrés en fait en 2012 à Kinshasa pendant le festival Ça se passe à Kin. Il était invité pour animer un atelier d'écriture et il y avait sa pièce, il me semble que c'était Tisha Tisha, qui était mise en voix à l'occasion du festival. Et donc, on a passé là presque 2 semaines ensemble dans le cadre de ce festival et on a pu faire connaissance. Voilà, donc c'était une rencontre humaine marquante et puis avec ce texte aussi qui était très beau d'un jeune auteur qui commençait à écrire et à faire du théâtre dans un contexte particulier. Aujourd'hui, il a beaucoup évolué et c'était très émouvant aussi d'être à Montpellier ensemble 10 ans après notre rencontre et de voir aussi voilà comment son geste d'auteur s'est construit au fil de ces 10 ans avec beaucoup de succès, de réussite et aussi un travail qui s'est affirmé du côté de sujets particulièrement politiques qu'il a envie de traiter et de mettre sur le devant de la scène.
Et selon vous, la place d'Akimba dans l'écriture dramatique contemporaine?
Alors les textes d'Akimba, ce sont des textes qui sont eux aussi résolument contemporains. Parce que Hakim, comme la plupart des auteurs qu'on intègre dans ce qu'on appelle les écritures contemporaines, cherche vraiment à travailler des questions de fond qui peuvent parfois être des sujets, des thématiques, comme la question de l'immigration qui est très présente dans son théâtre, mais en imprégnant ce sujet dans une forme qui va être très particulière et qui chez lui est aussi vraiment très marquée par l'hybridité, parce qu'on a des dialogues, mais des longs moments qui vont être très poétiques, qui sont tout d'un coup insérés dans le maillage textuel. Et ça, c'est aussi quelque chose qui fait la force de son écriture. Mais si je devais répondre plus spécifiquement à votre question, je dirais que, notamment ces dernières années, j'ai le sentiment aussi que l'écriture d'Akimba, elle a toute sa place dans le champ des écritures contemporaines parce que, comme beaucoup d'auteurs et d'autrices aujourd'hui, il s'intéresse à la question aussi du document, de l'histoire, des histoires qui n'ont pas eu leur place dans le récit national ou qui n'ont pas eu de visibilité et auxquelles il va essayer finalement de redonner corps et voix par la scène. Et donc ça, il me semble que c'est aussi une démarche qui est assez proche du souci documentaire du théâtre contemporain, qui permet d'inscrire Hakim pleinement dans ce champ.
Hakim Ba, vous avez choisi de nous faire écouter Benny Barral pour la chanson Bembeya Jazz National.
Bonjour Sarah, donc tu es étudiante et tu suis un atelier d'écriture avec Hakim Ba. Donc dans ce cadre-là, j'aimerais te poser quelques questions pour essayer de mieux comprendre l'écriture d'Hakim Ba. Comment tu décrirais son processus d'écriture dans lequel il t'a plongé? Par quelle étape vous êtes passé?
Alors pour le moment, et encore, parce que aujourd'hui on est encore avec lui, c'est notre dernière journée, je dirais l'expérimentation, notamment de terrain, donc aller dans des endroits où on peut convoquer des choses, où il peut y avoir des tensions. Il y en a qui sont partis devant le palais de justice, on est allé à l'Assemblée Générale, Paul Valéry. où il y avait plus de 1000 personnes. Et l'idée, c'est de voir ce qui nous traverse et surtout les voix, enregistrer les voix, faire des photos. Et il y a un petit côté journalistique et c'est intéressant. Et là, on essaye de faire un montage en essayant de voir le texte comme une architecture et même dans la mise en page aussi. Et essayer de faire résonner nos textes ensemble et en faire une unité.
Ok, donc tu dirais que ça se rapproche un peu du théâtre documentaire? Il y a quelque chose de journalistique, tu parles?
Alors, ça peut prendre cette forme, mais on essaie de tout personnifier. On fait parler des tables, on fait parler des crayons, on fait parler des... et on essaye de convoquer aussi un peu l'absurde en même temps. Donc, le côté documentaire par rapport au journalistique, par rapport à nous, parce qu'on n'est pas assis sur une table à gratter du papier et faire s'envoler l'esprit. Là, vraiment, on doit convoquer des espaces, être dedans, rechercher. Et oui, puis il y en a certains qu'on fait comme des petites interviews aussi. Okay. Donc, mais le résultat, non, est pas... Ça fait pas du docu du tout.
D'accord, ok. Et comment tu parlerais de la matière de prédilection de l'auteur? Est-ce qu'il y a une certaine musicalité de la langue? Est-ce que c'est la poésie des mots qui font naître plusieurs images très fortes? Ou est-ce que il y a le portrait des personnages qui est très fort dans l'écriture d'Akimba ou dans son processus de travail avec lui?
Alors, il y a un peu de tout ça. Il nous fait bosser beaucoup, oui, effectivement, sur la musicalité, mais ce que racontent les voix aussi. Et comment les superposer. Mais il nous a fait faire des exercices, on a chacun écrit des personnages, des actions, des lieux, et à tirer au sort, et on rajoutait à chaque fois. Je pense que, ouais, il y a, et de l'architecture, de mots, et comment on convoque, les voix, comment elles s'enchevêtrent, comment même une voix peut se personnifier elle-même. Okay. Je sais pas si c'est clair.
Ok, non, c'est intéressant. Donc on voit qu'il y a deux choses qui ressortent. Donc l'architecture de l'écriture et ce travail sur les voix. Et parmi ces trois jours d'atelier, dont aujourd'hui c'est le dernier, c'est quoi la chose la plus précieuse que tu gardes de ton travail avec l'auteur, toi personnellement?
Je pense que on grandit chaque jour un peu plus, mais avec Hakim, je me suis rendu compte que j'admire sa patience et je trouve que elle nous fait du bien et j'ai envie de garder et d'apprendre un peu de la patience de Hakim. Voilà.
Intéressant. Pour finir, si Hakimba était un arbre?
Je dirais un saule pleureur qui nous cacherait, nous protégerait et en même temps nous ferait de l'air, mais très doucement. Je vois quelque chose de très au ralenti.
D'accord. Merci, Sarah.
Convulsion. Scène 1. Au début, tout roule. C'est l'eau de rose. Les belles paroles à l'eau de rose. Ça tombe, pleut, tombe. Entre toi et moi, c'est pour de bon. Mon cœur déborde de toi, il ne bat que pour toi. Ça tombe, pleut, tombe. Je veux à chaque seconde entendre ton cœur battre d'amour contre ma poitrine. Et tu crois, évidemment, tu crois. Comment ne pas croire? Et tu veux que ça reste, tu crois que ça va rester. Rien ne peut t'ôter de la tête que ça ne restera pas, même si tu as envie que un jour ça s'arrête. Tu as tous les hommes à tes pieds, mais tu fais comme si. Tu fermes les yeux. Tu réponds à un tel, il voit de trop. Tu parles à un tel, il voit de trop. Tu regardes un tel, il voit de trop. Ça commence par une claque ou quelque chose comme ça. Un premier coup de poing ou quelque chose comme ça. Un premier coup de tête ou quelque chose comme ça. Un premier coup de genou ou quelque chose comme ça. Un premier coup de pied ou quelque chose comme ça. Bonjour Hakimba.
Bonjour.
Je me posais quelques questions par rapport... à convulsion, où il est question de Atrée et Thieste et du frère bâtard. Un fratricide sur le frère bâtard a lieu. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de la question de la bâtardise?
De la légitimité, l'enfant légitime et l'enfant et l'autre qui ne l'est pas et qui par conséquent est appelé voilà, l'enfant bâtard. Donc c'est un fardeau que tu portes toute ta vie, quelque chose que tu n'as pas choisi. Et donc dans une société musulmane où c'est assez, je sais que dans ma famille, donc on a, j'ai une de mes, donc en tout cas, une membre de ma famille qui a eu un enfant qui était pas légitime. Voilà, je mets ça entre guillemets, légitime. Et ça pose la question de c'est quoi la légitimité, parce que comme le mot était sali, que d'ailleurs quand j'étais petit, quand j'entendais, c'est-à-dire quand on parlait d'un enfant qui était pas donc bâtard, du coup c'était comme si c'était pas les, on n'essayait pas de la en fait il y avait beaucoup de questions me traversaient, et du coup je me demandais mais quelle forme ça a en fait, un bâtard, et quand il est né. Et plus tard je me suis rendu compte que c'est des gens comme nous, et que c'est juste la société qui décide à un moment, suite à des codes établis, que tel est légitime parce qu'il rentre dans le cadre et tel autre n'est pas légitime parce qu'il rentre pas dans le cadre. Et qu'aujourd'hui, bon, moi en venant en France aussi, je découvre on est dans une société un peu plus libre où ces questions ne se posent plus, parce que si on rentre dans ces trucs là on dira beaucoup sont des bâtards. Et aujourd'hui c'est comme le mot d'autres mots utilisés, c'est-à-dire pendant la colonisation, les mots nègres, machin, et que à travers en tout cas la culture américaine, ce mot nègre, moi quand j'étais ado, j'étais dans des clans et tous on s'appelait négro, et on a essayé au fait de prendre, c'est-à-dire c'est comme si on prenait de la boue et puis on essaie un peu d'essuyer tout ça, de partir, c'est-à-dire de la chose qui est insignifiante, et puis de mettre du beau, voilà, dans là-dedans. Et pour moi par exemple, le mot négro ça résonne autrement, et du coup on se le dit avec beaucoup de fierté, ça devient une fierté, et qu'avant c'était une insulte, c'est comme le mot bâtard. Aujourd'hui oui, tu peux le, ouais je suis bâtard, et alors, et on est tous quelque part des enfants bâtards, ou des, on porte tous une sorte de bâtardise, et c'est quelque chose qu'on réclame, comment qu'on, le fait d'être à côté, le fait de ne pas être dans le cadre, dans les cases, fait que ça nous donne aussi une force, c'est ce qui crée aussi les minorités, etc. Et comment les minorités aujourd'hui, qui fait que ça devient plutôt une force au lieu que ça, l'inverse au fait de ce que la société nous renvoie, ou en tout cas le te détruire, plutôt ça te grandit et ça te donne une autre âme, et ça te pousse d'ailleurs à aller de l'avant, et puis ça, voilà.
Merci pour cette réponse. J'avais une autre question, c'est que vous utilisez des didascalies qui annoncent le personnage, et à la lecture j'avais l'impression que si on voyait ça sur un plateau, l'acteur pouvait annoncer son personnage puis le jouer. Pourquoi est-ce que y aurait cette forme de distance, si elle existe? Est-ce que ça se procédé, est-ce que c'est une prise de distance dans la fiction avec les didascalies?
Alors, donc moi j'ai du mal avec les didascalies, ce qu'on appelle les didascalies. Donc j'écris la chose, moi je n'appelle pas ça les didascalies, même j'ai dit la chose, ce qui est en italique, ce qui n'est pas nommé, et qui peut être le récit, la personne qui porte la parole, c'est pas le conteur, ça peut être le conteur, le narrateur, l'auteur aussi, qui se cache derrière ces mots, et qui guide, en fait, qui manipule les personnages. Donc c'est le marionnettiste, au fond. Et d'être à cet endroit, ça permet aussi de donner une autre âme, c'est-à-dire du corps et du souffle à ces mots-là, que ce soit pas juste une indication pour une mise en scène. Parce que quand j'écris, je ne pense pas du tout à la mise en scène. Je pense à l'endroit où ça se passe, au lieu et à la situation. Et à partir du moment où je me suis dit, c'est-à-dire dans, je ne sais pas du tout d'ailleurs comment ça se met en scène, ce qui fait que je donne pas d'indication de mise en scène. Plutôt, j'essaie d'être à l'endroit de l'écriture, à l'endroit de la chose littéraire, qui fait que si on arrache en fait tout ce qui est en italique, le texte perd quelque chose de son, en tout cas le texte perd son âme, ce qui fait que même tel dit, pour moi ça donne aussi un rythme. Et quand on enlève ça quelque part, on arrache, même si on dit que c'est de trop, c'est dans cette espèce de d'accumulation qui fait que ça crée une musique. Et que, et d'ailleurs dans ce texte là souvent c'est une parole rapportée, donc c'est l'auteur, en tout cas le conteur, qui rapporte. Donc tel a dit ça, il a dit telle chose, et ça fait aussi beaucoup référence à la quand vous regardez à la culture en fait musulmane, le Coran par exemple, toute la parole en fait, la parole sacrée, la parole et c'est toujours Dieu dit ça, ou le prophète dit telle chose. Donc toute la parole en fait, toute cette parole sacrée nous est délivrée par le, mais en tout cas on annonce, c'est quelque chose qui est déposé. Donc du coup la personne qui le dit ne se, c'est pas comme au théâtre, juste en fait, bon, comme on est au théâtre, on a des personnages et puis on met de la parole, ça n'est dans la bouche de ces personnages. La démarche là est différente parce que on donne plutôt la parole au personnage, et on montre en fait j'aime bien aussi montrer cette espèce de mécanisme en fait, comment ça se fabrique au plateau en fait, comment on fabrique du récit et comment on raconte. J'ai grandi avec les contes, et quand on raconte un conte, il y a rien, mais en même temps il y a tout. Il y a pas de scénographie machin, et même quand je fais aussi de la mise en scène, j'aime bien partir de rien, de ce qu'on a, et de fabriquer en fait, de montrer comment ça se fabrique le récit, et que juste à partir des chaises on peut avoir un salon, ou même avec rien au plateau on peut tout avoir en même temps, voilà. Avec l'espace vide on peut remplir le vide de tout.
Akimba, vous avez choisi de nous faire écouter Biggie en featuring avec Tupac pour la chanson I'll Be Missing You.
That's just the way it is. Oh yeah. I see no changes. Wake up in the morning and I ask myself, is life worth living? Should I blast myself? I'm tired of being poor and even worse, I'm black. My stomach hurts, so I'm looking for a purse to snatch. Cops give a damn about a Negro. Pull a trigger, kill a nigga, he's a hero. Get it back to the kids, who the hell cares? One less hungry mouth on the welfare. First ship him, don't let him deal with brothers. Give him guns, step back, watch him kill each other. It's time to fight back, that's what Huey said. Two shots in the dark, now Huey's dead. I got love for my brothers, but we can never go nowhere unless we share with each other. We gotta start making changes. Learn to see me as a brother instead of two distant strangers. And that's how it's supposed to be. How can the devil take my brother if he's close to me? I let it go back to when we played as kids, but things changed. That's the way it is.
That's just the way it is.
Changes. All I see is racist faces. Misplaced hate makes disgrace to racist. We under, I wonder what it takes to make this one better place, let's erase the waste. Take the evil out the people, they'll be acting right. There's more black and white and smoke a crack tonight. And the only time we chill is when we kill each other. It takes guilt to be real time to heal each other. And although it seems evident, we ain't ready to see a black president. It ain't a secret, don't conceal the fact. The penitentiary's back and it's filled with blacks. But some things will never change. Try to show another way, but you're staying in the dope game. Now tell me what's a mother to do. Being real don't appeal to the brother in you. You gotta operate the easy way, but you made it in a sleazy way. Sell it back to the king. Well, hey, well, that's the way it is.
Just the way it is. Things will never be the same.
Never be the same, yeah. change the way we eat, let's change the way we live, and let's change the way we treat each other. You see, the old way wasn't working, so it's on us to do what we gotta do to survive. And still I see no changes. Can't a brother get a little peace? It's war on the streets and a war in the Middle East. Instead of war on poverty, they got a war on drugs so the police can bother me. And I never did a crime, I ain't happy to. But now I'm back with the facts, giving it back to you. Don't let them jack you up, back you up, crack you up, and pimp smack you up. You gotta learn to hold your own. They get jealous when they see you with your mobile phone. But tell the cops I can't touch this. I don't trust this. When they try to rush, I bust this. That's the sound number two. You say it ain't cool, but mama didn't raise no fool. And as long as I stay black, I gotta stay strapped. And I never get to lay back, cause I always gotta worry about the payback. Some buck that I roughed up way back, coming back after all these years. Right, tat, 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 tat. That's the way it is.
That's just the way it is. Things will never be the same.
See, we gotta make a
change. That's just the way it is.
Maintenant, j'aimerais prendre un peu de recul sur votre carrière. De 2013 à 2016, vous avez une écriture très prolifique avec 11 pièces de théâtre, de la poésie, une nouvelle. Comment expliquez-vous en fait cette grande production littéraire d'un coup, cette frénésie de dire par les mots, qu'il y a une raison particulière d'avoir autant écrit sur une si courte période?
C'était pas un choix, hein. Donc c'était ce que je faisais que ça, et j'ai fait des études d'informatique à l'université, et puis après quand j'ai terminé, j'ai écrit ma première pièce, ça s'est enchaîné, et donc j'ai été absorbé par le théâtre, et je n'avais que, c'est devenu mon métier. Je ne faisais que ça, je ne fais encore que, voilà, je fais que ça. Même si maintenant je fais aussi de la mise en scène, et avant je faisais pas du tout, je connaissais pas, j'étais très très loin du plateau, et mon rapport au théâtre c'était par le biais du texte, c'était le texte.
Et par rapport à l'écriture, justement, comment ça se fait que vous ayez peut-être besoin de passer par la mythologie? Est-ce que vous avez d'autres inspirations? Ou des moteurs de recherche?
Oui, donc dans certains textes, je parle de... J'essaie, en fait, à un moment, en fait, les thèmes, les choses, en fait, s'imposent. Donc il y a une question qui appelle une autre, et puis qui appelle une autre, et donc c'est une sorte d'accumulation qui fait que ça m'amène sur un terrain, sur un terrain donné. Et pour ce qui est des mythes, c'est la découverte. En fait, c'est quand j'ai lu par exemple Thiès de Sénèque, et tout de suite ça m'a posé. Donc il y a une vague de questions qui font que j'ai commencé à écrire ce texte-là, et un texte à partir d'eux. Et j'ai un rapport, et j'aime bien, en fait, je considère que les mythes c'est une espèce de base assez solide, en tout cas, et qui peuvent aussi nous permettre de raconter l'aujourd'hui et le monde contemporain. Et il y a aussi des mythes contemporains, donc du coup qui existent, qu'il faut raconter. Je pense que par le biais du théâtre, aujourd'hui, en tout cas, c'est à nous de raconter nos mythes contemporains, et en partant justement de ce qui de ces histoires qui ont traversé les siècles, en essayant un peu de s'approprier ça aujourd'hui, de pas les adapter, mais plutôt partir d'eux pour raconter l'aujourd'hui. Ça en tout cas, c'est une bonne base, voilà, c'est un bon point de départ, et j'aime bien ce que ça, parce que ça appelle en fait l'animal humain, et du coup ça nous amène à des endroits où on ne veut pas forcément aller, et ça nous montre aussi les limites, c'est-à-dire de l'humain, jusqu'où aussi l'humain est capable d'aller, et c'est toujours, ça nous amène toujours à l'extrême, et du coup ça nous permet de prendre certaines distances face à cette violence, en voyant ou en écoutant ces personnages-là, c'est dire, voilà. Et en même temps, ce qui se passe dans ces mythes-là, toutes ces choses-là aussi traversent l'humain. Donc, on essaye de canaliser nos pulsions, souvent. Et moi, par le biais de l'écriture, me permet aussi, voilà, de canaliser ça. Certains le font aussi avec leur boulot, d'autres avec des psychologues, avec voilà. On est des animaux, et donc le côté animal qu'on essaye de canaliser quelque part pour vivre aussi ensemble, en établissant des règles.
Super. Du coup, j'aimerais rebondir sur une chose. Vous parlez de des choses qui s'imposent à vous sur une certaine nécessité. Et parmi votre bibliographie, il y a une seule pièce que vous avez vous-même mis en scène. C'est La nuit porte-caleçon, si je me trompe pas. Et du coup, est-ce qu'il y avait une certaine nécessité de mettre en scène cette pièce-là parmi celles que vous avez écrites?
Donc la mise en scène, c'est autre chose. J'ai fait un master de mise en scène et après, on a créé une compagnie de théâtre. Pour moi, ça, c'est un autre rapport. Donc, c'est pas du. Donc, il y a l'écriture qui, pour moi, c'est l'endroit en fait où j'ai commencé par écrire. Et puis après, j'ai découvert la mise en scène. Et quand j'ai terminé mon master, on a créé une compagnie. Et puis, fallait voilà trouver une première pièce. On a décidé de monter cette pièce-là, mais il y avait pas, parce que ça parlait de la Coupe du Monde, ça parlait du football, et moi, quand j'étais, voilà, j'ai encore aujourd'hui, j'aime le foot, mais c'est tout ce qui se passe autour, le business, que je trouve, voilà. Après, donc, il y a eu aussi une autre pièce, À bout de sueur, ma pièce que j'ai montée avec Yann Chablais, et puis, il y a une autre pièce d'une autre autrice que j'ai montée, qui s'appelle Outrage ordinaire, une autrice suisse. Et je suis aujourd'hui dans une démarche plutôt où j'invite aussi d'autres artistes, voilà, à venir travailler, à venir ensemble, c'est-à-dire on essaie de réfléchir à un projet et puis apporter un projet, et puis que ce soit dans l'écriture, quelquefois aussi dans la mise en scène, d'être aussi dans ce partage-là. Voilà. Mais la mise en scène en soi, c'est un autre rapport. Donc du coup, c'est pas les mêmes. En fait, c'est beaucoup plus facile pour moi, d'écrire, parce que quand tu écris, t'es seul. Il y a pas de, et quand tu rentres à la mise en scène, ça devient tout de suite très politique, tu deviens comme une espèce quelquefois de chef d'entreprise où il faut trouver de l'argent, il faut mobiliser une équipe, gérer une ressource humaine. Il y a quand même un travail administratif, et puis de gestion aussi humaine, pour que l'œuvre puisse exister au plateau. Que quand j'écris, je n'ai pas besoin de tout ça, et j'ai beaucoup plus de liberté aussi, parce que la mise en scène, quelquefois, c'est des choix aussi que tu fais en fonction des gens que tu rencontres, il faut qui doivent aussi exister dans l'œuvre que tu montres, et c'est pas que toi, c'est pas que le metteur en scène, il a bien sûr une direction, mais il y a aussi des acteurs, il y a aussi toutes les personnes qui participent à la conception, les musiciens, les techniciens, la lumière, etc. Qui pour moi aussi, c'est des auteurs, chacun amène quelque chose. C'est des créateurs, c'est comme les acteurs aussi pour moi, ils créent, et tout le monde, chacun apporte quelque chose à l'œuvre, ne répond pas forcément juste à une vision.
Merci Akimba.
Merci.
Un premier coup de pied, ou quelque chose comme ça. La première fois qu'il t'en fout une, tu te révoltes. Tu te réfugies chez une voisine, puis il vient te chercher en pleurant, en te suppliant de lui pardonner. Alors tu pardonnes. Tu te dis, c'est rien de grave ça, ça va passer. Tu pardonnes. Ce n'est qu'un coup de colère, qu'un léger coup de nerf, ça va passer. Tu pardonnes. Que c'est des choses qui arrivent, qui ne va pas recommencer. Tu pardonnes. Mais il recommence. Évidemment, ça recommence. Et là, à partir de là, tu ne comprendras plus rien. Un jour, un coup de botte ou quelque chose comme ça. Un autre jour, un coup de bâton ou quelque chose comme ça. Un autre jour, il enlève sa ceinture et te frappe carrément avec ou quelque chose comme ça. Un autre jour, il te frappe avec le fil de la radio ou quelque chose comme ça. Et à partir de là, tout ce qui lui tombe dessus te tape, cogne, frappe. Et tout s'embrouille dans ta tête, sans que tu comprennes, et les coups de pied qu'on te balance, et les coups de genoux qu'on te balance, et les coups de poing qu'on te... et les coups de tête, et tous ces coups qui remplacent les caresses.
Merci d'accepter de répondre à mes questions sur l'atelier avec Akimba. Qu'est-ce qui vous a marqué du coup pendant ces deux jours et demi avec lui?
Ce qui m'a plus marqué, c'est on va dire un petit peu, c'est les restrictions, les contraintes comparées au cours de Sarah Forage, où avec Sarah Forage c'était plus ouvert, où on pouvait aller où on voulait. Et Akimba nous a fait le fait de être créatif avec des contraintes pour essayer de plus réfléchir. Par exemple, il nous dit, bah voilà, vous avez ça, essayez de créer un truc, même si c'est pas parfait, au moins vous essayez de créer un truc.
Alors moi, à vrai dire, ce qui m'a marqué dans le cours, c'est le fait que dès qu'on lançait un sujet, ben du coup, en fait, il tentait vraiment de rentrer dedans. C'est-à-dire que, enfin, à un moment, on a dit qu'on devait partir plus tôt pour partir à l'AG. Et ben en fait, on a fait un cours sur l'Assemblée Générale, tout simplement. Et je trouve ça super intéressant de prendre ce qu'il y a autour de nous, nos obligations, et de l'agrémenter du coup à notre cours. Et ben, même maintenant, beaucoup de textes portent sur l'Assemblée Générale, sur la Révolution, sur la démocratie, tout ça. Et je trouve ça très intéressant de partir dessus.
Oui, c'est exactement. Surtout qu'on utilise beaucoup l'art depuis l'histoire. On utilise l'art pour parler sur le futur, sur qu'il faut arranger. Et là, actuellement, il y a l'AG, il y a la réforme des retraites. Et utiliser l'art comme la littérature, le théâtre, ou même la peinture et la chanson, pour passer le message de « ce n'est pas bien », ou « il faudrait faire autrement » et « à d'autres moyens », je trouve que c'est super sympa de faire ce genre de truc comme ça.
Est-ce que il y a quelque chose qui vous a surpris du coup dans le processus de création, outre le fait de vous retrouver avec votre classe en AG?
Eh bien, moi, ce que je trouvais assez étonnant, c'est le fait que, en fait, à des moments, on écrivait des textes et en fait, fallait vraiment réenchérir sur le même texte, c'est-à-dire réutiliser les mêmes lieux, les mêmes scènes. Et en fait, ça poussait un petit peu la création jusqu'au bout, jusqu'à, enfin, je vais pas dire exploiter parce que ça serait péjoratif, mais vraiment, il y a pas une manière positive de dire exploiter.
Enrichir.
Oui. Enrichir, du coup, enfin, cela permettait d'enrichir, du coup, les scènes, les écrits qu'on avait déjà faits. Et du coup, d'enrichir, du coup, cet espace qu'on avait déjà créé, de le réutiliser et ainsi de le découvrir dans sa totalité.
Même le fait que, par exemple, quand on a fait le jeu des bols, avec les thématiques, les personnages et tout, on n'était pas sur notre meilleur point. Parce qu'ensemble, on avait le point de vue de tout le monde et on pouvait tomber sur n'importe quoi. Par exemple, moi, j'ai eu Macron avec les toilettes et j'ai dû essayer de penser un truc pour créer avec la thématique de l'AG et tout. Et franchement, oui, ça te pose vraiment à devoir penser, réfléchir. Parce qu'en soi, dans la vie, on dit toujours que la vie ne vient pas sur un plateau d'argent, soit si t'es pas riche. Mais en soi, rien ne t'est donné. C'est toi de le travailler, de le créer. Du coup, le fait d'avoir ce truc de... On te donne un truc, et c'est à toi de le travailler pour en faire un truc qui peut vouloir beaucoup.
Et du coup, c'est une sorte de transformation du réel, quelque part, vous trouvez pas?
Du coup, c'est vrai qu'on réutilise beaucoup d'éléments du réel pour en faire quelque chose d'autre. Par exemple, que ce soit des mini-pelles, des chaises, quoi que ce soit. En fait, on agrémente quelque chose qui est censé être réel, mais au final, dans des récits complètement fantastiques, mais c'est écrit d'une telle manière que je pourrais très bien voir une chaise qui parle devant moi, ça ne me choquerait pas sur le coup. C'est vraiment ce que j'imagine en voyant la scène, et c'est pour ça que j'ai l'impression d'être transportée dans un autre monde, mais une autre réalité, pas un fantastique.
Mais c'est vrai qu'on utilise beaucoup le réel pour écrire des histoires, parce qu'on utilise le réel pour raconter une histoire et la transformer, et dépendamment du genre, on peut le faire sur un truc qui n'a totalement rien à voir dans le réel, mais utiliser cet esprit du réel pour créer un truc.
Ok, super. Merci.
De rien.
Merci.
Merci à vous.
Et les coups. Ces coups qui remplacent les caresses. Et puis... comme ça, petit à petit, l'eau de rose s'évapore. Même pas une pointe de reproche de sa part. Même, il jouit de tes cris. Même, il jouit de tes larmes. Même, il jouit de ta souffrance. L'amour te largue sur le dos d'un zèbre. Et tu ne sais plus. Tu ne sauras plus où tu es. Tu te mets devant la glace. Tu te mets nu devant la glace. Tu regardes ton corps, ce corps qui n'est plus ton corps. Tu te vois toute nue. Pauvre de moi, vois ce qu'est devenu ce corps. Mon corps est une épave. Tu te demandes où est passé ce corps, ton corps de femme, de beauté, de plaisir, de jouissance, d'élégance, d'attirance, de grâce, de douceur, de brillance. Tu te demandes, c'est moi ça? Tu te demandes, c'est bien moi ça? Tu n'oses même pas toucher ta peau. Aïe! Ça fait mal, tu touches pas. Tu te contentes juste de regarder, sans toucher, sans toucher.
Akimba, vous avez choisi de nous faire écouter la chanson de David Bowie, Space Oddity.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom.
8, 7, 6.
Commencing countdown, engines on.
3, 2.
Check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. Stepping through the door, and I'm floating in a most peculiar way, and the stars look very different today. For here am I sitting in a tin can.
I love her.